Allez, je vous invite à ouvrir votre Bible. Nous allons clôturer ce soir notre méditation sur ce verset biblique où Jésus dit « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Alors, on avait vu que la plus juste traduction, la traduction la plus proche, c'est tout ce que vous lirez sur la terre aura été déjà délié au ciel et tout ce que vous délirez sur la terre aura déjà été délié dans le ciel. Alors on avait vu que cette expression, nous l'avions vu déjà en Matthieu chapitre 16, et nous avions vu que de ce cadre-là, c'est Jésus qui a délégué à Pierre, c'est à Pierre qu'il s'adresse lorsqu'il dit ça. Pourquoi à Pierre? Parce que Pierre fait une déclaration fameuse qui est laquelle? Alors ça, c'est ce qu'il y a un jeu de mots que Jésus fait, mais qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Pardonnez-moi, qu'est-ce qu'il dit Pierre? Voilà, tu es le Fils de Dieu. Et donc, Jésus dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et donc voilà, donc Jésus, sur la déclaration de Pierre, lui donne le pouvoir, ce qu'on appelle d'ouvrir, le pouvoir des clés, le pouvoir d'ouvrir le ciel, comme cela s'est accompli en acte 2 et acte 10. Et puis, la deuxième fois que l'on voit cette expression, elle se trouve encore en Matthieu, au chapitre 18. Là, Jésus ne s'adresse plus seulement à Pierre, il s'adresse plus largement aux disciples. Et là, on retrouve l'usage de cette expression, lier et délier, je le rappelle, qui est une expression typiquement juive, qui était donc plus dans un cadre de discipline. C'était une expression juridique juive pour exprimer ce qui était interdit et ce qui était autorisé. Et là, on voyait bien que c'était déjà dans une forme plus disciplinaire dans l'Église par rapport à la gestion du pardon, de ce qui doit être autorisé, de ce qui ne doit pas être autorisé. On voit ça en Actes chapitre 15 avec, et puis toutes les autres lettres pastorales qui sont adressées. Alors, le troisième passage, on le trouve en Jean chapitre 20. Donc, on va reprendre à partir du verset 19 jusqu'à 23, Jean chapitre 20, et on lira les versets 19 à 23. Et vous allez vous apercevoir là qu'il y a l'expression lier et délier, et pourtant il n'y a pas les mots lier et délier. Mais vous allez comprendre que dans la lecture, la comparaison, la similitude nous surprend. Le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, on est en étude biblique, alors je précise. Là, lorsque dans la Bible il est parlé le premier jour de la semaine, de quel jour dimanche. S'agit-il
dimanche.
Premier jour de la semaine.
Dimanche.
Et bien, c'est le dimanche. Okay. Le sixième étant considéré comme le dernier jour, selon la pratique juive, tu travailleras six jours et tu te reposeras le septième. Il n'est pas parlé là aussi, c'est intéressant. Hein. Les gens qui vous disent le sabbat, c'est forcément le samedi, non, Jésus ne précise pas un jour, mais dans la logique, il travaillait six jours, il se reposait le septième. Et donc, ça coïncidait sur ce que nous, on appellerait le samedi. Donc, le premier jour de la semaine, lorsque la Bible est écrite le premier jour de la semaine, sachez que c'est le dimanche. Donc, c'est comme ça que les chrétiens ont continué à perdurer dans cette tradition du dimanche. Donc, pardonnez-moi. Le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Alors Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Et Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux, etc. etc. Vous voyez un peu la similitude avec ce verset 23. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Et là aussi, on voit bien le parallèle. Parce qu'on se disait, mais attends, déjà dans l'expression lié, délié, bon, heureusement qu'il y a la traduction des verbes qui nous repositionne, parce qu'on pourrait croire que ce sont les hommes qui ont les pouvoirs et puis c'est Dieu qui signe, une sorte de chèque ambulant. Et là, on a l'impression que là aussi, ils ont le pouvoir de pardonner. Qui pardonne? C'est Dieu, hein? On est d'accord, hein? Et c'est intéressant parce que c'est sur ce type de phrase-là que l'Église catholique s'est donné le pouvoir ou a donné le pouvoir à certains hommes, le droit de pardonner. Et donc ce troisième texte-là, du verset 19 à 20, c'est la suite de la mort et donc la résurrection de Jésus. Les femmes ont témoigné aux disciples, les disciples ne croyaient pas vraiment qu'il était ressuscité, et puis ils sont dans un contexte de crainte, et hop, Jésus apparaît au milieu d'eux. Alors on peut comprendre leur joie, qui est surtout un grand soulagement. Ouf! En fait, il n'est pas vraiment mort, ouf, déjà ça va mieux. Et puis, le verset 21, il leur rappelle leur mission. Quelle est la mission des apôtres? L'évangélisation. Allez. Et puis, au verset 22, voilà un geste qui n'est pas très commun. Il souffle sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Il faut comprendre là que c'est un geste prophétique que Jésus fait. Un geste prophétique que l'on va retrouver à quel moment ? À la Pentecôte, où on retrouve quoi justement? Un grand vent, mes bien-aimés. Il y a un grand vent à la Pentecôte, il y a la flamme de feu, et si vous lisez, il est parlé d'un grand vent qui passe. Donc là, c'est un parallèle prophétique que Jésus fait. Il souffle sur eux, et puis il enchaîne. Et on tombe sur ce verset 23, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Donc on a la même, là, on voit bien la même comparaison, le même type d'expression, la même image que l'expression liée et déliée. Et maintenant, on pourrait même se dire, pourquoi est-ce que on voit bien qu'il y a la même mentalité, qu'il y a la même substance dans la teneur, mais pourquoi est-ce que c'est pas la même expression? Et ça, c'est un élément intéressant. Pour la simple et bonne raison que Matthieu et Jean ne cherchent pas à parler aux mêmes personnes. Matthieu, c'est un juif et qui a à cœur de démontrer aux juifs que Jésus est le Messie. Et c'est pour ça que dans l'évangile de Matthieu, il y a plein d'expressions typiquement juives, d'où l'expression « lié et délié » qui était une expression typiquement juive. Une autre expression que l'on voit beaucoup en Matthieu et qui n'est pas ailleurs, mais qui explique toute cette logique-là, c'est que les lecteurs de la Bible sont habitués à avoir une expression qui est « royaume des cieux » et dans les autres évangiles « royaume de Dieu ». Il parle de la même chose, à part que les juifs, eux, ont la crainte de prononcer le nom de Dieu. Ils n'osent pas. Et donc, en tant que bon juif qui veut apporter le message à des bons juifs, il prend des expressions juives et il évite de heurter des juifs. Donc, au lieu de parler comme les autres évangiles parlent aisément du royaume de Dieu, lui, en tant que bon juif, va utiliser l'expression « royaume des cieux ». Voilà. Donc, vous verrez plein d'analogies comme ça, où Matthieu, effectivement, lui cherche à convaincre les juifs. Donc, forcément, il se fait, comprenez l'expression, juif parmi les juifs, il prend les repères des juifs, et donc il va utiliser cette expression liée et déliée qui était vraiment typique d'une expression de la loi juive pour amener à cette compréhension-là. Jean, il est dans une autre optique. Il ne cherche pas, lui, forcément, à toucher les juifs. Lui, son objectif, c'est aussi de révéler la divinité de Jésus, mais lui, il va plus parler plus aux Grecs. Il va plus chercher à parler aux Grecs. On le voit par exemple tout de suite dans son introduction, dans ce qu'on appelle le prologue, c'est l'introduction de Jean. Il va utiliser l'expression le logos. Alors pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais dans la culture grecque, le logos, c'est plus que la raison. C'est l'expression, c'est l'essence du divin. Voilà, parce que les Grecs, ils croyaient en tellement de trucs que quelque part, au-dessus de tout, il y avait le logos. Et donc, tout de suite, Jean, dans sa logique, va essayer de leur faire comprendre, je résume un peu l'évangile de Jean, le logos, celui qui, au-dessus de tout, ben, sachez que c'est Jésus. Voilà, donc ça, c'est la mentalité que Jean a quand il écrit son évangile, parce qu'il veut convaincre les Grecs. Et on peut comprendre que si vous utilisez une expression, allez, maintenant je vais prendre une expression, collée à notre société, si vous prenez une expression typiquement burkinabé pour parler à des Brésiliens, ils vont rien comprendre. On parlait tout à l'heure d'expression, enfin la semaine dernière, il pleut des cordes, on sait tous ce que ça veut dire, mais si on prend une expression polonaise qui dit il pleut des grenouilles, mais il parle quelle langue, lui? Voilà. Et donc, c'est exactement comme ça que Jean ne réemploie pas l'expression « lié et délié », qui, pour les Grecs, n'a aucun sens, mais il fait tout de suite le rapprochement, une sorte de traduction, d'interprétation, parce qu'effectivement, cette expression « lié et délié », comme on l'a dit la dernière fois, c'est une expression, il ne faut pas chercher à traduire le mot à mot, mais cette expression, donc, il donne cette notion de pouvoir pardonner, de tolérer ou de ne pas pardonner, de retenir, c'est-à-dire de mettre de côté. Donc voilà déjà l'expression aussi qui est pleinement là, plus lisible dans la diversité au travers de ces trois passages. Que nous apprend le texte de Jean? Qu'est-ce qui nous apprend de plus par rapport à ce que nous avons vu en Matthieu 16 et en Matthieu 18? Il ne nous apprend rien, mais il complète la pensée par la présence du Saint-Esprit. Avant de leur donner cette autorité de pardonner, de permettre, de retenir, de dispenser, il leur communique le Saint-Esprit. Et là, si on refait un petit peu le cheminement, et si on reprend les mêmes exemples que nous avions vus précédemment, qu'est-ce qui s'est passé lorsque nous avions vu que la première des responsabilités des douze, c'était d'annoncer le message de l'évangile, et qu'en acte 2, c'est bien là, c'est bien à ce moment-là, on avait parlé de Pierre qui ouvre la parole et qui annonce le salut pour tous par la repentance. Qu'est-ce qui se passe en acte 2? C'est également la Pentecôte. Et heureusement qu'il y eut la Pentecôte. Et heureusement que Pierre a été rempli du Saint-Esprit ce jour-là. Heureusement qu'il était bouleversé par le Saint-Esprit. Parce qu'avant, on a vu que ce n'était pas le même homme, ce Pierre-là. Il avait été capable, au contraire, de renier son maître. Et en acte 2, par la puissance du Saint-Esprit, voilà qu'il remplit, qu'il rentre pleinement dans son ministère. Acte 10, c'est pareil. On avait parlé que c'est encore Pierre qui a été l'instrument pour annoncer à des païens tels que Corneille que Dieu ne fait exception de personne et que tous ceux qui le cherchent lui sont agréables, etc. et qu'il commence à baptiser. Donc là aussi, Pierre est un instrument, comme Jésus l'avait prophétisé, a été l'instrument pour annoncer l'évangile au peuple extérieur. Mais qui t'a l'amène de tout ça? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit avait commencé à travailler la conscience de Pierre avec cette vision. Le Saint-Esprit avait travaillé la conscience de Corneille. Et quand Pierre annonce la parole à tout ce peuple, paf, le Saint-Esprit descend sur tout ce monde. Si on prend même l'exemple en Actes chapitre 8 avec Étienne, où là aussi Étienne, on avait parlé de lui parce qu'on avait vu que hop, il annonce l'évangile, il le baptise, parce qu'ils étaient en plein dans cette mission d'annoncer la parole et de faire des disciples et de communiquer le salut tout autour d'eux. Donc on voyait vraiment qu'il y avait une focalisation sur ce domaine-là. Mais là aussi, c'est bien le Saint-Esprit qui a prévenu Philippe. Et c'est le Saint-Esprit qui l'inspire et qui le conduit. Et après, on voit même que c'est encore le Saint-Esprit qui le prend et qui amène Philippe sur un autre chemin. Nous voyons sans cesse que le Saint-Esprit est l'initiateur de ces ouvertures vers le monde. Et puis, lorsqu'on disait la semaine dernière que dans cette expression « lié et délié », il y a cette notion de discipline dans l'Église, et bien c'est exactement pareil. On avait pris l'exemple de Actes chapitre 15, où là, après avoir baptisé, établi des églises, il commençait à y avoir de la contestation dans les églises, il y avait même du désordre. C'est là qu'on avait un peu souri, on dit c'est étonnant, parce que d'un côté, ils baptisent les gens, et puis c'est comme si après, ils essayaient de rectifier et d'établir des règles. Et quand on lit Actes chapitre 15, verset 28, là aussi, il y a la nécessité du Saint-Esprit. Je vous le lis pour vous. « Car il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous de ne mettre sur vous aucun autre fardeau que choisis qui sont nécessaires, qu'on s'abstienne des choses sacrifiées aux idoles, du sang, de ce qui est étouffé et de la fornication. Si vous gardez de ces choses, vous ferez bien. » Donc même lorsque les disciples, cette réunion des premiers apôtres pour établir des règles dans l'Église, de la discipline, ils vont dire objectivement, cela a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Et là, c'est pour ça que l'on comprend bien là dans Jean qu'il n'y a pas dans cette expression une qualification supplémentaire, mais il est important cette précision de l'assistance du Saint-Esprit. Parce que celui qui est le chef de l'Église, ce ne sont pas les apôtres, c'est Dieu, c'est Jésus, par le Saint-Esprit. D'où l'importance toujours de placer toute chose que nous faisons sous l'influence du Saint-Esprit. Alors, on peut voir quelques autres exemples de cette mise en pratique que les disciples, et c'est plus que les disciples quand même, que les apôtres, parce que c'est quand même en qualité d'apôtre que les frères ont agi. Et donc ce principe d'accepter ou non, de clarifier ce qui est bon ou mauvais, de pardonner ou non, on voit par exemple dans la situation avec Pierre, d'Ananias et Saphira, en Actes, chapitre 5. Voilà un couple qui décide de mettre à part un peu d'argent. Enfin non, c'est voici. Mais surtout, et c'est Pierre qui le dit textuellement comme ça, comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Et là, ce n'est pas seulement une question d'avoir trompé l'Église, ce n'est pas seulement d'avoir trompé les apôtres. Mais Pierre, là, est dans une situation où la Bible, vous avez tenté le Seigneur. Vous avez tenté l'Esprit du Seigneur. Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Et là, c'est une situation lourde, lourde de responsabilité. Parce que c'est bien par la bouche de Pierre que Dieu va sanctionner une situation dans l'Église. Et c'est là que l'on voit effectivement ce que vous ne pardonnerez pas, ce que vous retiendrez. Et bien, je le retiendrai. Mais là aussi, on rappelle bien le rythme, c'est pas parce que c'est eux qui ont le pouvoir, c'est parce que, inspirés par le Saint-Esprit, par cette révélation, ils sont comme un instrument de jugement dans cette situation. Et Paul, dans ses épîtres, c'est pareil. Conduit par le Saint-Esprit, il va utiliser son autorité apostolique pour trancher dans certaines situations. Alors, j'ai retenu 1 Corinthiens, chapitre 5, c'est un passage un peu compliqué. Mais retenons la substance, versets 3 et 4, il va dire « Quant à moi, Même si je suis absent de corps, là c'est en français courant, je suis près de vous en esprit. Et j'ai déjà jugé au nom de notre Seigneur Jésus celui qui a si mal agi. Comme si j'étais présent parmi vous. Lorsque vous serez assemblés, je serai avec vous en esprit et la puissance de notre Seigneur Jésus se manifestera. Et Paul, là, dans cette situation, alors, je recadre un peu la situation de Corinthiens, il semblerait qu'il y ait une situation d'un frère qui était dans le péché, un péché suffisamment grossier pour que ce soit une situation qui nécessite même une sorte d'exclusion, de mise à l'écart. On l'est repris, là, il n'a pas voulu changer. Et Pierre, c'est la substance de la suite du verset, dire, mais il faut le livrer à lui-même. Il faut le livrer à son propre péché, quitte à ce que ce péché le touche, l'affecte physiquement. Mais tant que son esprit est capable de se repentir, alors l'essentiel est cela. Et donc là, il y a une sorte de jugement. Mais, et c'est la suite dans Corinthiens, heureusement, elle se finit mieux cette histoire-là, en 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 10, « Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi, et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ. » Et donc là encore, l'apôtre Paul fait office un peu de pas de juge, mais de cautionnaire de ce qui a été établi par le Saint-Esprit dans l'Église. Alors attention, hein. Ce n'est pas que les apôtres aient le pouvoir, hein, ça c'est important qu'on se... même si je crois que c'est dû à qui, mais les apôtres n'avaient pas le pouvoir en eux-mêmes de pardonner ou de ne pas pardonner. C'est, on le répète, conduit, inspiré, dirigé, saisi par le Saint-Esprit qu'il pouvait prononcer de tels jugements sur des situations de discipline qui avaient besoin d'être établies. Mais, la question se pose pour nous. Sommes-nous tous apôtres ?